Les Matas poursuivent avec le journal de Catherine Dutu. Bonjour Catherine.
Bonjour Guillaume, bonjour à toutes et à tous. Les funérailles de George Floyd aujourd'hui aux États-Unis résonneront jusqu'en France. Hommages et rassemblements prévus à Paris, Lille, Grenoble, Poitiers, Angers à l'appel d'associations antiracistes et de collectifs contre les violences policières.
Le tout au lendemain d'annonces de Christophe Castaner, le ministre de l'Intérieur réaffirme une tolérance zéro contre le racisme dans les forces de l'ordre, annonce la fin de la méthode d'interpellation dite de l'étranglement.
Et l'embarras de l'exécutif sur les violences policières, c'est le thème du billet politique de Stéphane Robert juste après ce journal. Après avoir débloqué des milliards pour le tourisme et l'automobile, le gouvernement vole aujourd'hui au secours de l'aéronautique des milliards d'euros à venir encore pour une filière ébranlée par la crise liée au Covid-19, une filière qui emploie 200 000 personnes en France.
Et puis à la une encore, Catherine, les craintes pour le secteur agricole en France et en Europe.
Et puis à Hong Kong, plus question de tolérer le chaos. Carrie Lam, la dirigeante de l'exécutif, met la pression ce matin sur les manifestants un an après le début de la contestation anti-gouvernementale. Le recueillement n'empêchera pas la colère de s'exprimer ni l'envie de justice. Aux États-Unis, George Floyd est inhumé aujourd'hui à Houston, sa ville natale au Texas, un peu plus de 2 semaines après sa mort. Les images de son interpellation par un policier blanc à Minneapolis et son décès ont entraîné une vague de protestations dans le pays et dans le monde entier. Hier, au Texas, la population a pu commencer à se recueillir devant la dépouille de cet Afro-Américain, mort donc le 25 mai dernier à l'âge de 46 ans. Des milliers de personnes ont défilé dans une église du sud de la ville, la même qui accueillera tout à l'heure la messe de funérailles. À Houston, le reportage de notre envoyé spécial, Grégory Phillips.
Recueillis, silencieux, ils sont entre 6 et 7 000 à avoir patienté sous un soleil de plomb avant de pénétrer dans l'église Fountain of Praise.
No videos, no pictures.
Coronavirus oblige, ils le font avec un masque sur le visage et une prise de température sur le front avant d'entrer. À l'intérieur, le cercueil doré et ouvert de George Floyd. Son visage paraît serein. Chacun a quelques secondes, puis doit laisser la place. Patricia est venue avec sa fille de 12 ans, Jayana.
I am sad.
Je suis triste, bien sûr, dit la mère de famille. Mais en même temps, je trouve que le mouvement né de la mort de cet homme est formidable. Maintenant, nous devons avoir un changement. Cela suffit.
Enough is enough.
La jeune fille complète les propos de sa mère. Elle n'a que 12 ans, mais elle raconte.
I don't think it's fair.
C'est tellement injuste. Vous sortez dehors. Vous pouvez être arrêté et accusé de quelque chose que vous n'avez pas commis. J'ai peur parce que j'ai 2 grands frères, ils ont 20 et 23 ans. Quand ils sont dans la rue, quand ils conduisent, on ne sait jamais ce qui peut leur arriver, s'ils sont interpellés par la police ou autre chose. C'est dans la même église qu'aura lieu tout à l'heure l'office pour George Floyd, avec seulement 500 personnes à l'intérieur, pour raisons sanitaires. Puis sa dépouille traversera une partie de la ville sur une calèche à cheval et escortée par les motards de la police de Houston pour aller jusqu'au cimetière où il sera inhumé aux côtés de sa mère.
Grégory Phillips, envoyé spécial de France Culture à Houston, au Texas. Des funérailles de George Floyd au lendemain de la première comparution devant la justice de Derek Chauvin, cet ex-policier accusé du meurtre de l'Afro-Américain. Derek Chauvin est apparu dans une tenue orange de prisonnier hier devant un tribunal de Minneapolis. Sa libération est soumise à une caution $1,250,000. Alors que les manifestations continuent pour réclamer justice pour George Floyd, ainsi qu'une réforme des méthodes de la police américaine, IBM dit ce matin être fermement opposé à l'utilisation de toute technologie à des fins de surveillance de masse et de profilage racial. En France, les militants anti-violence policière veulent continuer à faire entendre leur voix, profitant de l'actualité aux États-Unis. À Paris, par exemple, SOS Racisme appelle à un rassemblement solennel à 18h, place de la République, pour saluer la mémoire de George Floyd, au moment donc où se tiendront ses obsèques à Houston. Des militants qui saluent un premier pas en France de la part du gouvernement, la méthode de la prise par le cou, dite encore de l'étanglement, lors des violences policières, sera désormais interdite en France. C'est une annonce du ministre de l'Intérieur, Christophe Castaner, hier, dans un contexte de défiance forte entre les forces de l'ordre et la population. Christophe Castaner appelle à une tolérance zéro contre le racisme chez les forces de l'ordre.
Je veux que chacun sache que quand on porte l'uniforme bleu de la loi, on ne se situe jamais au-dessus d'elle. On se doit, au contraire, plus encore que d'autres, d'être exemplaire. Alors, je veux une tolérance zéro contre le racisme chez les forces de l'ordre.
Et dans les rangs de la police, David Olivier Reverdy, secrétaire national adjoint du syndicat de police Alliance, s'inquiète, lui, de voir des suspensions systématiquement envisagées pour les agents en cas de soupçons d'actes ou de propos racistes. David Olivier Reverdy.
On a été stupéfait par ces annonces qui sont censées donner un gage de bonne conduite aux détracteurs de la police nationale, si c'est possible de donner un gage à certaines personnes, parce que je pense que leur souhait, c'est qu'il n'y ait plus de police nationale, plus d'intervention et surtout une impunité totale quand ils agissent sur des faits délictueux. Et c'est vrai que ces annonces nous laissent un goût amer, car comment, et si on rentre un petit peu dans le détail, comment suspendre un collègue sur des suspicions sans que la justice ne soit saisie? Là aussi, la présomption d'innocence ne s'appliquerait-elle pas aux fonctionnaires de police? C'est une question que je pose au ministre, et c'est vrai qu'on est quand même époustouflé par ce genre de réflexion. Et après, sur d'autres annonces qu'il a pu faire, comment arrêter la technique dite de l'étranglement? Alors c'est vrai que le mot peut paraître barbare, peut faire peur, mais la technique de l'étranglement, c'est la seule possibilité qui nous est donnée aujourd'hui de pouvoir amener quelqu'un au sol et d'éviter le contact physique entre un policier et un individu qui est souvent extrêmement violent, extrêmement virulent, souvent sous l'emprise d'alcool ou de stupéfiants. Et c'est la seule façon non létale. Nous ne sommes pas aux États-Unis, il ne s'agit pas d'appuyer pendant 8 minutes sur la gorge de quelqu'un avec son genou. Il s'agit juste de l'amener au sol de manière à pouvoir le menotter et préserver l'intégrité de cette personne, mais également celle du policier.
David Olivier Reverdy, secrétaire national adjoint du syndicat Alliance Police Nationale, il répondait à Margot Delpierre. Côté politique, à présent, Christophe Castaner est sorti hier du déni total, affirme la France insoumise. Les écologistes déplorent, eux, des manques dans le discours du ministre de l'Intérieur sur le contrôle aux faciès, notamment, ou sur le plaquage ventral. Toujours pas interdit, regrettent les Verts. Les Républicains estiment de leur côté que Christophe Castaner a surréagi hier, ne rappelant que des évidences sans dévoiler de stratégie à long terme. Plus critique encore, et ce n'est pas une surprise, Jordan Bardella, le vice-président du Rassemblement National, a écrit hier sur Twitter « Sous la pression d'une famille de délinquants notoires et de quelques excités, Macron et Castaner lâchent la police et la gendarmerie ». Fin de citation.
8h07 sur France Culture, c'est la suite du journal de Catherine Dutu. Des milliards d'euros pour soutenir la filière aéronautique. Le gouvernement dévoile aujourd'hui son plan pour sauver cette filière frappée de plein fouet par la crise du coronavirus.
L'aéronautique qui emploie 200 000 personnes en France, chez des mastodontes comme Airbus, mais aussi dans une myriade de PME, de sous-traitants qui peinent à remplir aujourd'hui leur carnet de commandes. Le reportage à Toulouse de Stéphanie Glésis.
Ici, l'aéronautique et l'espace, ce sont des acteurs majeurs pour l'emploi, prime à la casse, aide au chômage partiel, à la transformation digitale des entreprises. Les idées ne manquent pas. Serge Dumas, président de Gilis Aéro, basé dans le Tarn-et-Garonne, il fabrique des fixations, boulons, écrous pour l'aéronautique.
Le problème de base, c'est de survivre. Le premier point, c'est effectivement la création du fonds d'investissement aéronautique. Alors, les donneurs d'ordre, ce sont Airbus, Dassault, Safran et Thales. Le deuxième axe, ça sera la digitalisation. Plus vulgairement, il faut qu'on continue le zéro papier ou qu'on continue aussi, qu'on favorise les échanges de données informatiques avec nos clients. La recherche ne doit pas être oubliée, notamment pour des programmes fédérateurs que vont être l'avion du futur, l'avion plus électrique, l'avion plus vert. Les petites entreprises ne doivent pas être oubliées. On ne peut pas licencier, il ne faut pas licencier, notamment dans des petites entreprises comme les nôtres. Donc, il faudrait qu'on trouve une solution pour avoir des charges partagées, des coûts entre l'État, la région, l'entreprise et le salarié.
Johan Clochet, cofondateur d'Aérotech à Groyer et Blagnac, pose une condition à l'aide d'Airbus, Safran, Dassault ou Thales.
Avec une condition de faire travailler nos sociétés locales, régionales ou nationales. Qu'on a un pacte moral, on aide ces sociétés-là, mais qu'il y ait ce pacte moral pour que ces donneurs d'ordre majeurs derrière, fasse fonctionner les PME.
Comme la crise actuelle risque de durer 2 ou 3 ans, ces PME affirment qu'il faut conjuguer chômage partiel et renégociation salariale pour garder les emplois. Une proposition qui, évidemment, hérisse les syndicats de salariés.
Le chômage partiel qui doit être justement redéfini entre gouvernement, organisations syndicales et patronales. Muriel Pénicaud, la ministre du Travail, les rencontre cet après-midi. Car si 80% de l'activité a redémarré en France, la reprise est lente. 8 millions de salariés ont tout de même bénéficié du chômage partiel en avril dernier à cause de l'épidémie de Covid-19. Pour François Auméril, président du syndicat CFE-CGC, il faut absolument contrôler les entreprises qui vont solliciter ce nouveau dispositif de chômage partiel.
Le MEDEF, il a beau jeu de nous dire « oui, mais tout ça, c'est des usines à gaz, c'est compliqué, donnez-nous l'argent, on sait quoi en faire ». Eh bien moi, je n'ai plus aucune confiance dans la parole du MEDEF sur le sujet, Il a pris le CICE depuis plus de 5 ans, c'est 20 milliards par an. Il n'a créé aucun emploi en face. Il faut un certain nombre de contraintes qui qualifient et qui justifient l'aide qui sera donnée aux entreprises. La nécessité d'avoir un plan stratégique de formation et d'évolution des compétences. Il peut y avoir une contrainte liée au dialogue social. Il peut y avoir des contraintes liées aux salariés les plus âgés, aux conditions dans lesquelles ils vont pouvoir partir en retraite, finir leur carrière et transférer leurs compétences. Vous voyez que des contraintes, on peut en trouver autant que le Code du travail prévoit de secteurs spécifiques sur lesquels l'attention des entreprises est attirée.
François Auméril, président du syndicat CFE-CGC, il répondait à Yvan Planteil. Autre inquiétude au chapitre économique, l'agriculture et les territoires ne peuvent plus se permettre de continuer à perdre des travailleurs et des fermes. C'est en substance ce que va déclarer la mission agriculture du Comité économique, social et environnemental cet après-midi, alors que se négocie à Bruxelles une nouvelle PAC cruciale pour l'avenir de la souveraineté alimentaire de la France et de l'Europe. Cruciale car à mesure que les exploitations s'agrandissent et disparaissent faute de repreneurs, certaines productions alimentaires disparaissent elles aussi à leur choix.
Cet avis du CESE viendra abonder la longue liste de propositions citoyennes, politiques et scientifiques remises au ministère de l'Agriculture et à Bruxelles pour imaginer une politique agricole qui puisse efficacement remédier au problème de la désertification des terres agricoles par ceux qui la travaillent. Bertrand Collier, le rapporteur de cet avis.
On a perdu 56 000 agricultrices et agriculteurs ces 10 dernières années. Les prévisions sont encore plus sombres. Il y a plus de 200 000 départs à la retraite d'ici 2026. Et quand on interroge les gens qui vont partir, il y en a les deux tiers qui pensent ne pas pouvoir transmettre. Donc c'est un quart des fermes qui risquent de disparaître dans les 5 prochaines années.
Les raisons sont multiples. Travail trop dur, revenus et retraites trop faibles, foncier agricole trop cher et aide à la transition agroécologique notamment pas suffisante. Les agriculteurs vieillissants vendent souvent leurs exploitations aux plus offrants, souvent des exploitants déjà installés qui cherchent à s'agrandir ou spécialisent leur production ou à des spéculateurs qui vont transformer ces terres agricoles en terrains constructibles. Pour le CESE, il faut donc mieux accompagner à la fois ceux qui partent et ceux qui s'installent.
Il y a des aspects aussi d'accompagner sur la question du logement, par exemple, c'est une question très, très complexe quand sa maison d'habitation elle est au milieu de la ferme. Eh bien, il faut pouvoir être accompagné aussi sur le fait de trouver un nouveau logement pour laisser la place. C'est aussi des questions bien plus psychologiques, c'est-à-dire souvent on a hérité nous-mêmes de la ferme familiale, on se retrouve être le dernier maillon de la chaîne et ça c'est aussi des choses qui doivent être accompagnées pour qu'on accepte, qu'on favorise le fait qu'il y ait quelqu'un qui vienne par la suite.
19 préconisations figurent dans cet avis, de la demande d'une grande loi foncière à celle d'une plus grande implication des collectivités territoriales, en passant par des moyens supplémentaires à l'installation via la PAC.
41 combattants ont été tués hier dans des affrontements dans le nord-ouest de la Syrie où les forces fidèles au régime de Bachar el-Assad ont repoussé une nouvelle attaque d'un groupe djihadiste lié à Al-Qaïda. À Hong Kong, plus question de tolérer le chaos. Carrie Lam, la dirigeante de l'exécutif hongkongais, met la pression ce matin sur les manifestants un an après le début de la contestation anti-gouvernementale. C'était il y a un an donc, jour pour jour, 1 million de personnes descendaient dans la rue dans le plus grand calme pour réclamer l'abandon d'un projet de loi sur l'extradition. Personne n'imaginait alors que cette marche allait déborder sur des manifestations en série qui ont bouleversé depuis la société hongkongaise et précipité des changements qu'en fait personne ne souhaitait. Le bilan des derniers 12 mois avec notre correspondante sur place, Florence de Changy.
Quand il y a un an, 1 million de Hongkongais étaient descendus dans la rue avec des poussettes et des personnes âgées. C'était pour réclamer le retrait de la loi d'extradition vers la Chine. Mais le soir même, la chef de l'exécutif Carrie Lam confirmait son intention de faire passer la loi, affichant son mépris total pour la population. Pour beaucoup, c'est cette attitude, ce jour-là, qui a déclenché la colère qui a ensuite nourri des dizaines de confrontations de plus en plus violentes, des grèves, l'occupation du Parlement, de l'aéroport, de plusieurs universités, face à une police dont les manifestants dénoncent la brutalité. Denis Kwok est l'un des députés de l'opposition pro-démocratie, dont Pékin réclame la disqualification pour obstruction parlementaire. Il dresse le bilan de cette année historique.
What we have lost. En un an, on a perdu la liberté et les libertés garanties par le principe un pays, deux systèmes. Ce que l'on a gagné, c'est l'union des citoyens hongkongais et l'attention de la communauté internationale.
Les Hongkongais placent désormais leur espoir dans un soutien de la communauté internationale, car un an plus tard, si le projet de loi d'extradition a bel et bien été abandonné, Pékin vient d'annoncer son intention d'imposer une loi de sécurité nationale qui va aller bien plus loin dans la restriction des libertés individuelles et politiques des Hongkongais.
Florence de Changy à Hong Kong pour France Culture. Quelques mots du temps en France de ce mardi 9 juin, marqué par des éclaircies dans le nord-ouest du pays, davantage de nuages et d'averses sur le reste de l'Hexagone. Au meilleur de la journée, il fera 15 degrés à Grenoble, 17 au Havre, 19 à Paris et à Toulouse, 20 degrés à Nancy, 21 à Poitiers, 23 à Toulon. Guillaume Erner.
Merci Catherine Dutu.